Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux malgré cet épouvantable temps de mars. Remarquez, ici nous sommes à l'abri, nous pouvons profiter justement de cette heure donc à l'abri. Venons de faire un tour d'horizon des diverses formes prises par le retour de Confucius et plus spécifiquement du texte des entretiens. Et nous avons vu que ces formes peuvent aller de l'instrumentalisation la plus brute aux professions de foi les plus sincères, même si elles peuvent nous paraître naïves. Et nous avons vu que ces formes concernent tous les pans de la société chinoise. Bien sûr, ça a été un processus extrêmement lent et progressif, mais à l'heure actuelle, donc, on peut dire que l'intégralité de la société chinoise est concernée, depuis les élites politiques jusqu'aux couches populaires, depuis les classes moyennes urbanisées jusqu'au milieu rural et même au-delà justement des limites de la société chinoise, puisque, comme nous l'avons rappelé, ce revival confucéen, et donc j'ai eu l'occasion de justifier cet anglicisme, cette espèce de renaissance donc confucéenne, a commencé en dehors de Chine comme un phénomène d'emblée globalisé, puisque nous avons vu que c'est à partir justement du retour d'un Confucius Economicus, donc à partir de la périphérie de la Chine continentale, et également à partir des États-Unis, que donc ce phénomène a peu à peu gagné le cœur de ce que j'ai appelé l'Empire. Alors, après avoir observé comment le texte des entretiens est utilisé ou réapproprié sur divers terrains, le terrain politique, le terrain éducatif et le terrain médiatique, nous avons abordé la semaine dernière la manière dont les intellectuels, eux, proposent leur lecture, en commençant donc par celle d'un historien, un professeur donc à l'université de Pékin, Beijing Daxue, donc ou Peida, donc en abrégé. Ce professeur donc s'appelle donc Li Ling. C'est un professeur du département d'histoire qui a une certaine notoriété en Chine et qui est donc l'auteur d'un livre au titre volontairement provocateur, à savoir donc Sangyako, qui veut dire donc littéralement chien errant, un chien qui a perdu sa maison. Ça a ceci de provocateur que c'est censé s'appliquer à Confucius. Confucius est donc assimilé à un chien errant. Nous avons vu que Li Ling a toutes les raisons de s'appuyer justement sur une source ancienne, puisqu'elle date du IIe siècle avant notre ère. Il s'agit des annales historiques du grand historien Sima Qian, je n'y reviens pas, où donc Confucius est comparé donc à un chien errant et admet que cette comparaison est tout à fait juste. Alors, bien sûr, ce livre de Li Ling a provoqué, comme nous l'avons vu, des réactions plus que virulentes dans les milieux qu'il vise très précisément, a commencé par celui de ceux qu'il appelle les fondamentalistes confucéens, dont beaucoup exercent à l'Université du Peuple à Pékin, Renmin大学, ou Renda, donc en abrégé. Nous avons vu donc que cette Université du Peuple, dont l'histoire remonte aux années 1930, c'est-à-dire au début du conflit sino-japonais. Il s'agit d'une université en fait qui a été créée donc pour la formation idéologique des cadres du Parti communiste chinois. Et évidemment, ça n'est pas le moindre des paradoxes que c'est cette même université qui a été la première de tout le pays à ériger donc une statue de Confucius à l'entrée du campus, dont nous avons vu la photo la dernière fois. Donc ça s'est fait en 2001. Et l'année suivante, nous avons vu également que cette même université du peuple a créé également un institut de recherche Confucius. Donc là, nous avons en fait au cœur même justement de la formation idéologique justement des penseurs du parti, donc cette renaissance confucéenne. Et nous avons vu que beaucoup des professeurs de cette université du peuple ont pour mission de fournir une caution intellectuelle au discours officiel sur la société d'harmonie, la fameuse He Xie Shehui. Alors, soit dit en passant, nous avons vu donc la dernière fois que les affrontements intellectuels en Chine passent parfois, justement, et très souvent, même par des rivalités entre institutions concurrentes. Là, en l'occurrence, nous avons une espèce de guéguerre donc, entre certains professeurs donc, de l'Université de Pékin et certains autres donc, de l'Université du Peuple. Alors, rassurez-vous, nous avons ça aussi chez nous. Ce n'est pas une spécificité chinoise. Alors, donc, contre les partisans de ce mouvement qui prend de l'ampleur à l'heure actuelle et qu'on peut regrouper sous l'étiquette générale d'études nationales, de Guoxue, qui prétend donc remettre à l'honneur une certaine, ou du moins une certaine idée de la culture traditionnelle chinoise. Donc contre ces partisans qui, par exemple, érigent la statue donc au propre et au figuré donc d'un Confucius qualifié de sage suprême ou de saint, de Shengren en chinois, qui serait donc une sorte d'emblème unique et unifiant d'un nationalisme culturel exacerbé, notre historien Li Ling donc défend précisément une approche historienne du texte des entretiens qui, dans sa lecture, fait apparaître au contraire un Confucius esselé, un Confucius qui est fondamentalement seul, seul comme un chien, on pourrait dire, comme un chien errant, et qui est, selon Li Ling, l'image même de l'intellectuel héroïque et incompris, à la façon donc de Don Quichotte. Je disais la dernière fois que la comparaison avec Don Quichotte revient très souvent donc sous la plume de Li Ling, et auquel Li Ling s'identifie lui-même. Alors, ce faisant, Li Ling réanime une approche qui rappelle très fortement l'esprit du 4 mai 1919. Et là, je fais référence donc à ces repères chronologiques que je vous donnais donc au début de ce cours. Donc l'esprit du 4 mai, dont l'iconoclasme s'est retrouvé en quelque sorte dans l'esprit de la révolution culturelle des années 1960 et 70. Et c'est animé par cet esprit que les intellectuels anti-traditionnalistes se sont employés donc à faire descendre Confucius, Maître Krong, donc de son piédestal, pour lui redonner son statut originel de simple maître de l'Antiquité pré-impériale, donc un maître parmi tant d'autres. Hein, donc nous aurions Krongzi, Maître Krong, parmi donc Mozi, hein, au milieu de Mozi, Maître Mo, donc fondateur de l'école moïste, Zhuangzi, donc que vous connaissez sans doute, Maître Zhuang, Mengzi, Maître Meng, dont le nom a été également latinisé en Mencius, etc., etc. Donc, au fond, il s'agit pour cette position historienne et objectivante, en quelque sorte, de faire descendre Confucius du piédestal sur lequel on l'a érigé donc dans les siècles ultérieurs. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la lecture d'un autre intellectuel contemporain qui est lui non pas historien mais philosophe. Il s'agit donc de Li Zihou que vous avez ici. Oui, alors j'ai oublié de poser la question habituelle. Est-ce que les personnes assises au fond voient clairement donc le... Oui ? Oui ? Bon. Donc, ce Li Zihou est l'auteur donc d'un livre qui s'intitule donc alors attendez, je vais essayer de vous retrouver donc la couverture de ce livre. Bien, alors là, vous avez donc des choses désormais familières. Voilà. Alors donc ici vous avez donc le... Ah oui, alors attendez. Voilà. La couverture donc de ce livre de Li Zihou, donc qui s'intitule donc Lun Yu Jin Du. Vous avez donc le titre ici. Avec donc là c'est je le note en passant pour l'instant, j'y reviendrai tout de suite après, mais vous avez donc ça c'est assez remarquable, donc la traduction en anglais, hein, reading the Analects today, c'est-à-dire donc c'est ça veut dire donc une lecture des entretiens de Confucius, le Yu, donc d'aujourd'hui. Et vous avez donc le nom de l'auteur ici. Alors, il s'agit ici d'une réédition récente, hein, de 2004, d'un ouvrage qui a été initialement publié il y a à peu près 10 ans, donc en 1998. Alors, ce Li Zihou. Alors, j'insiste sur le fait que je tiens justement à vous, même si je pense que la plupart d'entre vous n'avez pas véritablement accès donc aux sources chinoises directement, hein, peut-être faute de pouvoir lire le chinois, mais j'essaye quand même de vous introduire justement à la façon dont ces intellectuels chinois contemporains donc relisent les sources classiques, hein, pour vous montrer que ces chinois contemporains, hein, comme vous pourrez le constater par vous-même, donc pensent d'une certaine manière comme nous, hein, ils pensent et ils vivent comme nous, hein, ils pensent et ils vivent avec nous, hein, et pas simplement autrement que nous. Cette communauté de conversation est déjà en place. Nous ne sommes plus au stade de rechercher une sorte de dialogue entre les cultures, nous y sommes déjà. Alors, Li Zihou est né en 1930. Alors ça, c'est une indication importante, puisque nous voyons ainsi qu'il appartient à la génération d'avant Li Ling. Donc, je vous rappelle que Li Ling est né en 1948. Tandis que Li Zihou est de la génération qui avait 20 ans au moment de l'instauration de la République populaire en 1949, son cadet, et on dirait même que c'est la génération suivante, Li Ling, qui est né en 1948, c'est-à-dire justement au moment de l'instauration de cette République populaire, lui a eu 20 ans au moment de la Révolution culturelle. Donc là, nous avons en fait deux intellectuels contemporains, puisqu'ils sont encore tous les deux vivants, mais qui appartiennent donc à deux générations successives et qui n'ont pas exactement eu la même expérience de vie. Alors, donc, ce Li Zihou, alors, en fait, vous remarquerez qu'ils portent tous les deux le même nom de famille, hein, Li, mais Li, c'est à peu près l'équivalent de Dupont en français. Hein, vous avez, en fait, beaucoup de Chinois qui portent ce patronyme. Alors, il est originaire du Hunan. Alors, entre parenthèses, le Hunan est la région d'origine également de Mao Zedong. Alors, là, c'est l'occasion pour moi de souligner au passage l'importance du lieu d'origine en Chine, puisque c'est elle qui, c'est lui qui crée des affinités, des liens d'amitié et même des réseaux d'influence au niveau politique. Et de fait, nous aurons sans doute l'occasion justement d'évoquer à la fois les affinités intellectuelles et la communauté d'origine régionale entre Li Zihou et son compatriote, Chen Ming, dont je vous parlais déjà la dernière fois, et qui est le fondateur donc d'un périodique important dans les débats et la vie intellectuelle chinoise actuelle, qui s'intitule donc Yuan Dao, la voie originelle, et dont je vous disais la dernière fois qu'il représente un courant important justement de ces études nationales, de ce Guoxue, dont nous parlons déjà depuis quelque temps. Et alors, justement, nous disions la dernière fois que ce Chen Ming, également donc originaire du Hunan, donc, compte parmi justement les critiques les plus acerbes de Li Ling, donc de la position historienne de Li Ling. Alors, je reviens donc à Li Zihou, donc à notre philosophe, qui a eu une enfance très pauvre, mais qui a eu la chance d'être accepté à l'université de Pékin, donc l'une des universités les plus prestigieuses du pays, au lendemain de la prise du pouvoir par les communistes en 1949. Donc il a à peu près 20 ans, il entre à l'université de Pékin à ce moment-là. Alors, dans cette université, il devient spécialiste de l'histoire de la pensée chinoise moderne, avec notamment des études sur deux personnages qui sont deux grands noms du mouvement réformiste de 1898. Là, nous sommes donc au début de la modernité chinoise, à savoir donc Kang Youwei et Tan Sitong. Alors, au moment de la révolution culturelle, alors qu'il approche donc de la quarantaine, Li Zihou est envoyé, comme beaucoup de ses collègues, dans un camp de rééducation. C'est les intellectuels de cette époque sont soit envoyés donc dans des écoles ou des camps de rééducation, ou bien donc la plus jeune génération, comme je l'ai rappelé la dernière fois, est envoyée donc dans les campagnes, hein, pour donc s'instruire auprès des paysans. Mais alors donc au milieu enfermé dans son camp, il trouve quand même le moyen de continuer à lire et à travailler intellectuellement tout seul. Et en cela, on peut dire qu'il a connu la même expérience de la solitude de l'intellectuel que Li Ling, mais donc une génération avant. Et alors, dans un passage autobiographique qui est intitulé « Zou wo ziji de lu », c'est-à-dire donc « Je suis mon propre chemin », hein, ou « Je vais mon propre chemin », hein, là, vous voyez que nous avons une posture de l'intellectuel, hein, qui est contraint et forcé finalement par la situation sociale de son époque de faire son chemin tout seul. Alors, il raconte comment, tout en étant prisonnier donc dans son camp, il a réussi à ruser donc avec les autorités, et il a pu ainsi projeter de faire pas moins qu'une traduction de la première critique de Kant en anglais. Alors, il a choisi de faire cette traduction en anglais, puisque, évidemment, il a escompté, justement, à juste titre, que les gardiens n'y verraient que du feu, hein, puisque, évidemment, ces gardiens ne lisaient pas l'anglais. Et il raconte aussi comment, pour les mêmes raisons donc, de précaution, il a caché donc son brouillon de traduction sous la couverture des œuvres choisies de Mao Zedong. Donc, vous voyez, là, c'était la manière, enfin, de ruser donc avec le contrôle des autorités. Et alors, donc, il a fait tant et si bien que du coup, lorsque la vie universitaire a repris après donc la chute de la bande des quatre, la mort de Mao donc en 1976, donc après finalement la révolution culturelle, donc à partir de 1978, il avait donc des travaux qui étaient déjà prêts pour la publication et qui vont faire date. Alors parmi ces travaux, il y a notamment justement cette fameuse étude sur Kant intitulée donc Critique de la philosophie critique, Pipan Zheshue de Pipan. Il s'agit donc d'un Kant Shuping, c'est-à-dire donc une étude sur Kant qui est donc une critique de la philosophie critique, qui est sortie à Pékin donc en 1979. Alors, il faut rappeler à ce propos, et je rappelle toutes ces données donc sociologiques pour que ces Chinois contemporains ne soient pas pour vous des abstractions de Chinois, mais des gens vivants et pensants, des vrais gens, comme on dit. Et il faut rappeler qu'après donc la fin de la révolution culturelle, les universités n'ont repris leur recrutement normal des étudiants qu'à partir donc de 1977, et ceci par concours à l'échelle nationale. Donc les universités chinoises donc recrutent en fait de manière extrêmement sélective. C'est l'occasion pour moi ici de dire que nous sommes actuellement en plein débat sur les universités, et que dès qu'on prononce ou qu'on évoque la notion de sélection, évidemment tout le monde crie au scandale, mais en Chine c'est quelque chose de tout à fait établi. Donc les universités recrutent par concours, exactement comme nous le faisons ici pour les grandes écoles. Alors, pour ces premières générations d'étudiants, dont faisait partie donc mon cher époux, donc Li Zihou, s'est imposé d'emblée par son mode de pensée et de parole particulièrement rafraîchissant, après donc des décennies de phraséologie marxiste-léniniste. Il s'impose par un franc-parler qui le rend particulièrement populaire. Et j'ai pu m'en rendre compte par moi-même quand je l'ai rencontré pour la première fois, justement, dans les années 1980, lors de ma visite à l'Académie des sciences sociales de Chine. Là, vraiment, enfin, il faisait partie, justement, des maîtres penseurs pour la jeune génération, puisque... ce qu'il apportait de neuf à cette jeune génération intellectuelle post-maoïste, c'était d'une part une redécouverte de la subjectivité à travers justement sa lecture de Kant, d'autre part une relecture aussi de l'histoire intellectuelle chinoise, et c'est à ce titre justement que j'avais demandé à le rencontrer, sa relecture qui sort de l'ornière et des plans tiroirs de l'analyse marxiste. Là, j'aime mieux vous dire que à la fin des années 70, tout le monde en avait par-dessus la tête des distinctions mécaniques introduites par l'analyse marxiste entre penseurs matérialistes d'un côté et penseurs idéalistes de l'autre. Quand vous ouvriez n'importe quel livre donc, sur l'histoire intellectuelle, vous aviez d'un côté les bons penseurs matérialistes, c'est-à-dire donc ceux qui ne pensent que justement par l'objectivité matérielle, hein, et de l'autre les mauvais penseurs idéalistes, les Weixinzhuizhi. Là, vous aviez ces schémas extrêmement mécaniques, et vous aviez également une périodisation extrêmement sommaire donc de l'histoire intellectuelle chinoise, qui commençait avec une période esclavagiste, hein, et qui continuait ensuite sur une très longue période féodale, hein, et qui allait donc se terminer, bien sûr, avec l'avènement donc du socialisme. Donc là, Li Zihou donc vient révolutionner tout ça, donc en parlant donc d'une histoire intellectuelle chinoise, hein, qu'il réinterprète complètement. Donc, d'où un effet effectivement tout à fait libérateur, hein, qui était vraiment le bienvenu pendant cette période. Et enfin et surtout, hein, ça c'est donc le troisième point important dans son œuvre, ce qu'il apporte, c'est une réflexion philosophique sur l'art et sur la beauté, hein, qui était donc resté un sujet tabou pendant la période maoïste. Et parmi ses nombreux ouvrages sur l'esthétique, qui ont suscité à l'époque une véritable fièvre esthétique, hein, je vous parlais de ces successives fièvres qui ont secoué donc le grand corps malade chinois donc pendant donc cette génération donc des années 1980 jusqu'à nos jours. Le plus connu donc de ces ouvrages reste encore celui dont vous avez le titre ici, donc Mei de Li Cheng, hein, c'est-à-dire donc qu'on pourrait traduire par parcours de la beauté, hein, qui est paru en Chine donc en 1982 et qui a été immédiatement traduit en anglais donc et qui est paru donc aux presses universitaires d'Oxford dès l'année suivante sous le titre A Path of Beauty, donc c'est-à-dire donc un cheminement ou un parcours donc de la beauté. Alors là, vous voyez justement à quel point les anglo-saxons et plus particulièrement les américains, puisque en fait ce sont eux qui possèdent réellement les presses universitaires d'Oxford, sont beaucoup plus réactifs que nous, hein, parce que je sache, nous attendons toujours en fait une traduction en français de ce livre, hein, et nous sommes donc plus de 20 ans plus tard, hein. Alors je referme cette parenthèse. Alors, à partir des années 1990, Li Zihou n'est plus au centre de la vie intellectuelle chinoise, de la scène intellectuelle chinoise, puisque après les événements de Tiananmen en juin 1989, il est placé en résidence surveillée et ses livres ne sont plus publiés en Chine. Et donc, en conséquence, en 1991, il accepte le statut que lui offre le gouvernement américain de résident permanent aux États-Unis. À la suite de quoi, donc, il enseigne dans diverses universités américaines et il a actuellement une position de professeur à l'université de Boulder dans le Colorado. Donc là, nous sommes de nouveau renvoyés à ce que j'appelais donc dans ma leçon inaugurale, qui est actuellement diffusée en ligne, soit dit en passant. Donc dans ma leçon inaugurale, je parlais d'une véritable autoroute, hein, d'un pont ou même d'une autoroute, donc entre la Chine et les États-Unis. Hein, et donc cette position offerte à Li Zihou, donc qui n'est pas véritablement un dissident. Hein, je ne pense pas qu'il se définirait comme tel, mais comme beaucoup justement de ses contemporains chinois, donc il opère en fait couramment donc aux États-Unis. Alors en Chine même, on peut dire que cette mise en retrait de Li Zihou, hein, n'a pas été simplement causée donc là aussi par une décision venue d'en haut, mais d'une certaine manière, elle s'explique également par le bas, dans la mesure où elle a été renforcée également par l'arrivée sur le marché, si j'ose dire, sur le marché intellectuel, d'une génération nouvelle de jeunes universitaires qui ont été formés à l'étranger et principalement aux États-Unis. Et ces jeunes Chinois qui ont souvent obtenu un PhD, c'est-à-dire un doctorat dans une université américaine, donc n'ont plus besoin de faire appel à un médiateur comme Li Zihou. Et ils assimilent par eux-mêmes et en allant directement à la source les méthodologies occidentales, et ils ont donc cet accès direct à ce qui se fait en Occident sur la Chine, puisque en fait Li Zihou, pour cette génération intermédiaire donc des années 1980, jouait précisément ce rôle, hein, c'est-à-dire donc il apportait justement un écho de ces méthodologies nouvelles, hein, venues de l'Occident, et d'autre part, il apportait ce regard neuf, hein, influencé justement par ces mêmes méthodologies occidentales, sur la culture chinoise. Alors, ceci étant dit, Li Zihou est en train de faire parler de nouveau de lui, notamment par le biais de l'intérêt nouveau qu'il a commencé à manifester et à porter donc à la pensée confucéenne, et qu'il interprète à travers le prisme philosophique du pragmatisme. Et là-dessus, je ne peux que vous conseiller de vous reporter à l'excellent article de notre collègue de l'EHESS, Joël Toraval, dans le volume collectif que j'ai déjà eu l'occasion de vous signaler, à savoir donc La pensée en Chine aujourd'hui, hein, paru donc en poche chez Gallimard en 2007, hein, où donc Joël Toraval justement vous explique de manière extrêmement circonstanciée le lien que Li Zihou donc établit justement de manière philosophique entre la tradition confucéenne et donc le pragmatisme, qui est lui aussi d'origine américaine, hein, comme vous le savez, le pragmatisme dont John Dewey a été le premier importateur en Chine dans les années 1920, c'est-à-dire tout de suite donc après le mouvement du 4 mai 1919. Donc pour l'instant, je n'entre pas dans le détail justement de cette relation, puisque je vous renvoie à cet article, et j'en viens donc à ce qui m'intéresse de manière plus immédiate, à savoir donc ce livre de Li Zihou sur les entretiens de Confucius, donc cette lecture actuelle qu'il propose donc des entretiens. Alors, j'attirais tout à l'heure votre attention sur la traduction donc du titre en anglais, hein, qui s'explique justement par le fait que Li Zihou dispense la majeure partie de son enseignement donc aux États-Unis. Alors, donc, à la différence de Li Ling, l'historien dont l'ouvrage, vous vous souvenez peut-être, était sous-titré Wo Du Lun Yu, c'est-à-dire donc comment moi je lis les entretiens, autrement dit ma lecture personnelle des entretiens. Li Zihou, lui, met l'accent non pas tellement sur le caractère personnel de sa lecture, mais sur son actualité, puisque il a choisi d'intituler donc son livre lire les entretiens aujourd'hui. Alors, dans son propos préliminaire, Li Zihou dit avoir commencé à s'atteler à cette lecture actuelle des entretiens à l'automne-hiver 1989, autrement dit immédiatement après donc le massacre de Tiananmen, et il dit y avoir travaillé enfin de manière sporadique jusqu'à achèvement donc en 1994. Donc il a mis à peu près donc 5 ans. Alors, ce qu'il ne dit pas explicitement dans ce préliminaire, c'est que ces 5 années sont précisément les années où il a été placé donc en résidence surveillée et où il a ensuite accepté un exil volontaire donc aux États-Unis. Alors, de manière tout à fait frappante pour nous, tout comme Li Ling, Li Zihou dit ne pas avoir d'affection particulière ni pour Confucius ni pour ses entretiens. Vous vous rappelez peut-être que Li Ling, avec son franc-parler, dit carrément que pour lui, en fait, les entretiens de Confucius, enfin, il a été obligé de les pratiquer justement pendant la Révolution culturelle et notamment pendant la campagne contre Lin Biao et contre Confucius, où des extraits donc des entretiens de Confucius étaient utilisés comme slogan contre Lin Biao. Donc, d'une certaine manière, enfin, le premier véritable contact de la génération de Li Ling, c'est sous cette forme-là. Alors évidemment, pas exactement la façon la plus objective de lire les entretiens. Mais en règle générale, Li Ling dit que d'une certaine manière, vous vous rappelez peut-être que la dernière fois, je disais justement qu'il dit qu'il a été en contact pour la première fois avec le nouveau confucianisme contemporain en venant en France, et que c'est seulement en 2004 que, sous la pression de l'engouement nouveau qu'il observe en Chine pour justement ce renouveau confucéen, on l'a pratiquement contraint à ouvrir un cours justement sur les entretiens de Confucius à l'université de Pékin. Autrement dit, cet intérêt de Li Ling pour les entretiens, ça ne vient pas de lui. C'est quelque chose qu'il a été amené pratiquement par force à redécouvrir. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que Li Ling dit très honnêtement que, en étant forcé de faire un cours sur les entretiens, il a découvert une sympathie réelle justement pour le personnage de Confucius, puisqu'il s'identifie à lui justement comme une espèce de Don Quichotte, comme un espèce de, comment dire, de héros solitaire et incompris. Et de la même façon, Li Zihou dit justement qu'il n'a pas d'affection a priori particulière justement ni pour Confucius ni pour les entretiens, mais il est obligé d'admettre que c'est quand même en quelque sorte l'âme de la culture chinoise. Il parle de Xinhun, ce texte est véritablement au cœur de la culture chinoise. Et la pensée confucéenne, le Ruxue, il parle de Ruxue, que le texte du Lun Yu représente, a pénétré donc tous les aspects de la vie institutionnelle, culturelle, publique, privée et toutes les couches sociales, donc mêlant haute culture des élites et culture populaire. Donc, autrement dit, ce qui intéresse Li Zihou de manière immédiate, c'est le fait que ce texte, dont il compare le rôle un petit peu à celui de la Bible dans le monde occidental, c'est un texte qui a véritablement touché l'intégralité donc de la société chinoise. Pour lui, donc, ce Ruxue, cette pensée confucéenne, d'emblée, n'est pas simplement une espèce de doctrine ou de philosophie abstraite. C'est un texte vivant qui a véritablement pénétré toute la société. Et alors donc, dans ce même préliminaire de son livre, donc Li Zihou raconte qu'un jour il se trouve à Taïwan. Donc là, nous avons effectivement quelqu'un qui se situe dans une sorte d'exil volontaire, donc en dehors de Chine populaire. Donc il raconte comment il se trouve dans un taxi donc à Taïwan. Et il remarque que le chauffeur a accroché dans sa voiture donc une icône bouddhique. Bon, alors il commence à discuter donc avec le chauffeur, et le chauffeur lui commence à lui montrer justement toute la littérature bouddhique qu'il a dans son taxi. Comme quoi, on fait des rencontres intéressantes très souvent dans les taxis. Et donc ce chauffeur donc lui montre justement toute sa littérature bouddhique. Et Li Zihou nous dit qu'il est frappé donc par le contenu en réalité extrêmement confucéen de ce qu'il voit dans cette littérature bouddhique, qui exalte elle aussi donc la piété filiale, l'entente familiale, les relations de bon voisinage, les valeurs de loyauté, de sincérité, l'éducation morale, etc., etc. Donc, c'est pour lui l'occasion. Alors, évidemment, cette littérature bouddhique, bien sûr, est une littérature édifiante. Cette littérature bouddhique pour le peuple, c'est une littérature extrêmement édifiante, et c'est relativement peu étonnant qu'en contexte chinois, justement, elle évoque des notions tout à fait confucéennes. Alors, c'est l'occasion pour Li Zihou, donc le philosophe, de constater que si la Chine n'a pas connu de véritable guerre de religion, c'est que l'enseignement confucéen, justement ce fameux Ruxue, est aussi en partie un enseignement religieux. Il parle de Ruqiao. Li Zihou nous parle d'une pensée qui est à la fois donc d'ordre religieux et d'ordre philosophique. Il nous dit que c'est une pensée qui est pan zhongjiao, pan zheshue, c'est-à-dire donc moitié religieuse, moitié philosophique. Et c'est ainsi que justement Li Zihou explique la capacité intégrative de cette forme de pensée, puisque en fait la réflexion confucéenne concerne à la fois donc le monde humain. Confucius insiste beaucoup justement sur le fait que sa priorité, c'est de s'occuper justement du monde humain, c'est-à-dire des relations entre êtres humains et de l'art, de ce que nous appelons maintenant, enfin de ce dont nos politiques se gargarisent, ce que nous appelons maintenant le vivre ensemble. Mais en même temps, c'est une réflexion qui porte également sur les préoccupations ultimes, à savoir donc le sens de la vie et le sens du destin humain. Et c'est cela qui, selon Li Zhe Ho, a permis donc à la pensée confucéenne d'absorber donc la meilleure part des autres religions, donc que ce soit donc le taoïsme ou le bouddhisme, plutôt que de créer avec elles donc des antagonismes. Mais comme c'est aussi en partie une philosophie, la spécificité justement de cette philosophie, c'est que ça n'est pas une philosophie conceptuelle du qu'est-ce que, et là donc Li Zhe Ho donc nous traduit donc ces expressions chinoises en anglais, ça n'est pas là une philosophie du shemeshi, c'est-à-dire du what is ou du qu'est-ce que, ce n'est pas une philosophie qui recherche la définition des concepts, autrement dit ce n'est pas une philosophie purement spéculative, mais c'est une philosophie disons fonctionnaliste du comment faire, c'est-à-dire du ru he zuo, c'est-à-dire du how to. Li Zhe Ho donc en vient alors justement à sa grande idée de la philosophie chinoise et plus spécifiquement donc confucéenne comme philosophie de ce qu'il appelle la rationalité pragmatique, shiyong li xing, qu'il oppose justement à la philosophie de la raison pure. Alors ce que je retiendrai ici, c'est que Li Zhe Ho, en fait, nous parle d'une tradition confucéenne en termes de catégories qui viennent en réalité de la terminologie occidentale. Quand il nous parle d'une forme de pensée qui est à la fois donc religieuse, zhongjiao, et philosophique, Zheshue, il utilise donc des catégories donc d'origine occidentale, mais au lieu de dire justement que c'est un compromis, il nous dit que c'est précisément ce statut hybride en quelque sorte qui permet justement à la tradition confucéenne d'intégrer des aspects qui lui sont même contraires, qui lui donnent cette capacité intégrative. Alors, dans une conférence qu'il a donnée en 1999, donc un an après la parution de son livre sur les entretiens, Li Zhe Ho situe de manière intéressante la place qu'il assigne à la référence confucéenne par rapport aux autres grandes tendances qui se dégagent dans la Chine actuelle. Alors pour lui, la jeune génération d'intellectuels chinois peut se ranger dans deux tendances principales. Il y a pour lui d'un côté ce qu'il appelle le libéralisme, qui dans son ensemble marche dans le sens des valeurs occidentales désormais universellement acceptées, à savoir donc l'économie de marché, la propriété privée, la démocratie, les droits de l'homme, l'individualisme, etc., etc. Donc là, c'est une grande tendance qu'il voit en fait dans l'actualité chinoise. Et de l'autre, il y a ce qu'il appelle, lui, le populisme. Alors, le populisme, non pas au sens où nous le voyons dans nos médias actuellement, appliqué à une certaine forme de gouvernance chez nous, mais le populisme au sens russe du terme. En chinois, donc, le minzui-zhuyi. Alors, il faut rappeler justement à cette occasion que Li Zihou fait partie d'une génération d'intellectuels chinois qui ont été très marqués par l'influence de l'Union soviétique et de la culture russe en général, à tel point que beaucoup de ces intellectuels ont même étudié le russe et ont fait des séjours, donc notamment des séjours d'études en URSS. Donc en russe, si j'en crois mes informateurs, en la personne de ma fille russisante, donc l'expression russe narodni chezvo désigne donc un mouvement donc des partisans du peuple, qu'on a traduit par convention donc le populisme, et qui désigne un mouvement d'opposition des intellectuels russes au tsarisme dans les années 1850-1880, c'est-à-dire en gros dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et donc c'est un courant politique qui touche surtout des intellectuels de la bourgeoisie et qui, tout en étant imprégné donc de culture européenne occidentale, n'en ont pas moins une conscience extrêmement aiguë du retard économique et politique de la Russie par rapport justement à cette même Europe occidentale. Et ils pensent pouvoir ressourcer l'âme russe dans la terre russe, c'est-à-dire auprès des paysans. Et donc, évidemment, l'un des représentants les plus connus de ce mouvement, c'est évidemment des grands écrivains comme Tolstoï. Alors, vous voyez un petit peu comment justement ce populisme russe peut trouver des échos dans l'intelligentsia chinoise, avec justement cette problématique de savoir si on va trouver un ressourcement auprès de la classe paysanne ou bien auprès de la classe ouvrière des villes. Ça, c'est toute la problématique révolutionnaire qui continue justement à marquer des intellectuels comme Li Zihou. Alors, ce que donc Li Zihou lui appelle le populisme et qu'il oppose donc au libéralisme, c'est une tendance qui comprend en particulier une composante maoïste et qui s'oppose justement à tout ce que représente le libéralisme, qui est contre la globalisation, contre le capitalisme et ses multinationales, et pour la défense des traditions nationales. Alors là, j'attire votre attention justement sur le fait que quelqu'un comme Li Zihou, tout comme Li Ling, mais d'une manière différente, ne renie pas du tout, malgré justement tout ce qu'il a pu souffrir, il ne renie pas du tout l'héritage maoïste, puisqu'il considère que cet héritage fait désormais partie intégrante de l'expérience vécue et de l'expérience notamment des intellectuels chinois contemporains. Alors, comme le fait remarquer Li Zihou, ces deux tendances, bien qu'elles soient en opposition, sont toutes les deux issues de traditions occidentales. Et même s'il admet que le mouvement vers une modernisation matérielle à l'occidental est universellement nécessaire et de fait universellement acceptée, il existe également une culture spirituelle proprement chinoise qui, selon Li, comporte des caractéristiques proprement confucéennes. Et comme l'explique très bien Joël Toraval, donc dans l'article que j'ai mentionné tout à l'heure, Li Zihou oppose à la rationalité spéculative d'origine européenne cette fameuse rationalité pragmatique confucéenne, ce Shiyong Lixing, qui se caractérise selon lui par une culture de l'optimisme ou une culture du contentement, on pourrait dire, hein, le Gan Wenhua, ici, qu'il oppose peut-être de manière un peu sommaire à la culture judéo-chrétienne de la culpabilité, hein, cette culture du contentement, c'est justement le fait de ne être en dehors justement de cette culture du péché originel, hein, et de toute la problématique de la grâce divine, hein, et qui est ancrée justement dans une émotionnalité, esthétique. Hein. Là, je suis obligée de terminer un petit peu rapidement, mais nous aurons l'occasion d'y revenir la prochaine fois. Il caractérise également cette culture confucéenne au dualisme qu'il voit dans toutes les sources de pensée occidentales, que ce soit donc la Bible, Platon ou même Kant. Et donc nous verrons donc nous reprendrons là-dessus la prochaine fois, parce que je suis obligée de m'arrêter ici, et nous reprendrons notamment justement sur cette double dimension religieuse et philosophique que Li Zihou perçoit donc dans l'enseignement confucéen. Et nous aurons l'occasion donc la prochaine fois justement d'en arriver enfin à ce que j'appelais au début de ce cours donc les lunettes avec lesquelles nous, hein, du côté européen en fait, nous lisons les sources confucéennes, et nous lisons donc ce que nous appelons le confucianisme, et nous aurons donc l'occasion de revenir, je pense, à notre Europe des Lumières. Merci de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.